Silence, s'il vous plaît, dans la bibliothèque.
Lire, c'est queer, avec Brian Saint-Louis.
Allô, Brian, à Québec, comment ça va?
Bonjour, Denis Martin à Montréal, ça va bien?
Ça va bien, ça va bien. Hey, on a trois titres aujourd'hui, on en a pas mal à raconter. Alors, allons-y oui. Tout de suite. Fouol de C. Poirier, c'est publié chez Triptych. Je l'ai lu, moi, ça m'a beaucoup touché. Je sais pas comment t'as vécu ta lecture.
Oui, C. Poirier, Fouol. Ben, dans la collection Queer de Triptych, il faut mentionner, si les gens ne connaissent pas cette collection-là chez Triptych, ils font toujours beaucoup d'efforts pour mettre de l'avant des écritures queer, des auteurs queer, des textes queer. C'est-à-dire qu'ils osent beaucoup, donc toujours très intéressant ce qu'ils font. C. Poirier, un cri littéraire poétique, je dirais. Oui, ça, on est un peu happé par cette écriture-là. C. Poirier qui nous parle de transphobie, de violence, notamment médiatique, qui sont subies par les personnes queer, par les personnes trans. Un texte le poétique qui veut ébranler un peu la cisnormativité. C'est un état des lieux. On parle beaucoup de mots haineux, de choses qui se passent. Donc, on va avoir dans le texte là, des listes de mots haineux qu'on utilise. On va avoir une liste de victimes de transphobie, d'intolérance. On sent aussi un appel un peu à la révolte pour les personnes queer, pour les personnes trans. Comment je vous dirais ça? Dans ce souffle-là. On sent que c'est vraiment un appel au fait qu'il y a comme encore trop de violence, trop de morts, mais qu'il y a de l'espoir dans ce livre-là. On est vraiment dans le souffle, on est vraiment dans l'espèce de prise de conscience. C'est une autre belle façon d'écrire le combat des personnes trans.
Tu vas me permettre, je vais juste lire deux vers parce qu'ils sont vraiment, quand tu parlais là, de cette violence qui est quand même mise de l'avant par certaines chroniqueurs, chroniqueuses ou chroniqueureuses, parce que là, on reviendra là-dessus, parce que s'ils utilisent beaucoup la langue non-genrée. Mais voici. « Vos chroniques pourrissent le ciel, des rochers jaillissent de vos bouches, vous encouragez l'horreur, dépliez les pans de la lumière humaine, de la misère humaine. »
Oui, c'est ça. On cible certains chroniqueurs qui font des textes. Quand je disais au début là, des violences médiatiques que vont subir les personnes trans, les personnes queer, c'est un peu le point de départ de ça, de questionner un peu pourquoi cette haine-là, ces textes-là. On cible des personnes un peu plus directement. À la fin du livre, on va imaginer des réponses que ces personnes-là auraient pu faire pour s'excuser auprès des communautés par rapport aux textes qu'ils ont publiés. Mais oui, un texte plein de fougue, vraiment, plein de force. Alors que la couverture, elle est toute douce, elle est toute rose. Il y a des petits lapins dessus. On pourrait penser un texte un peu plus doux, mais pas du tout. On est vraiment comme dans une quête dans ce livre-là. Et de voir ces pages le remplies de noms de personnes qui ont été victimes de violences, reste que de voir cette accumulation de noms-là. Ça reste marquant. Donc, c'est bien de voir les personnes queer utiliser aussi la poésie pour continuer leur combat. Ça se lit rapidement et c'est intéressant de découvrir cette plume-là, C. Poirier, comme je vous le disais, chez Triptych, dans la collection Queer à découvrir. Vous le reconnaîtrez à sa petite fée sur la couverture.
Oui, tout à fait.
Et,
tout à
alors,
fait.
Vous le verrez.
Alors, l'autre livre dont tu veux nous parler, c'est Emilia. Là, il y a un trait d'union entre Emily et Ia. Une bande dessinée de Pierre Jungling chez l'employé du moi. Ah, oui, ça, j'aime beaucoup le nom de la maison d'édition. Je ne l'ai pas lu celui-là, je ne l'ai pas encore reçu, mais allons-y.
Ben oui, une maison d'édition que je ne connaissais pas non plus, un auteur que je ne connaissais pas. Oui, je vous parle de plein de styles aujourd'hui, de plein de choses. C'est la fin de saison, j'ai une table de chevet bien pleine, donc j'essaie de faire plein de suggestions tout en même temps. Et Emilia, ben, une bande dessinée, c'est aussi un petit livre qui va se lire rapidement. Pierre Jungling, c'est un auteur allemand qui nous présente cette bande dessinée-là, qui commence un peu de façon le classique, je vous dirais, jusqu'à un certain point. Le personnage principal a été assigné fille. Et là, Il attend sa mastectomie, le début de sa nouvelle vie qui va commencer. On sent vraiment que c'est un événement qui l'attend. Donc là, au début, on va parler de son rapport avec son corps, de ses seins qui l'ennuient. On voit ses rencontres avec son psychologue. Le psychologue parle pratiquement plus que lui dans ces rencontres-là, mais on sent qu'ils s'acheminent assez vite, qu'ils vont vers la transition. Et sinon, il nous parle un peu de sa vie quotidienne. Donc là, le personnage principal, il est étudiant, il est en résidence, il fréquente son meilleur ami non binaire qui s'appelle Harry, qui est une personne vraiment très militante, qui va avoir beaucoup d'impact dans sa vie à lui. Et là, dans la résidence, on lui assigne, en plus de son sexe, on lui a aussi assigné un coloc, qui est une coloc, c'est une fille qui s'appelle Lisa, qui est une fille qui a un copain avec qui ça va pas toujours bien. Elle est ouverte, curieuse, un peu mal informée quand même par rapport aux réalités que va vivre Émile Emilia. Et là, elle veut avoir aussi une opération pour ses seins, mais c'est pour les grossir. Et puis là, elle trouve ça donc bien drôle que les deux veuillent vouloir des opérations pour les seins au même moment. Donc là, ça va semer un peu la confusion entre les deux parce que tu comprends pas ce que je vis, c'est pas ça, c'est pas juste une histoire d'avoir des seins plus gros et ainsi de suite. Bref, donc au début, on est un petit peu dans ces anecdotes-là. Et là, c'est dur de se rendre assez loin sans dévoiler de punch sur ce qui va se passer dans cette histoire-là, parce qu'il y a vraiment une deuxième partie où on va complètement. Ben, on va dans la même direction, mais c'est beaucoup plus profond. Je voulais la quatrième de couverture. Le personnage principal dit à un moment donné, c'est quand même assez fou qu'on puisse être aussi certain d'une décision. Il parle de sa mastectomie, certain qu'on ne pourra pas changer d'avis. Alors que s'il y a un truc qui est bien certain dans la vie, c'est bien le changement. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce
Ben,
personnage-là.
j'ose croire qu'on va aborder la détransition, qui est un
Voilà.
sujet délicat, mais moi, ça ne me dérange pas qu'on en parle ici, là, parce que c'est important d'en
Hey.
parler.
C'est ça, mais comme lecteur, je dois dire, moi, oui, puis alors que c'est des réalités qui sont quand même très loin de moi, mais je vais quand même dire que quand on est rentré dans ce sujet-là de la détransition, j'ai pas su comment réagir comme lecteur. Puis je vais inviter les gens ben, à lire cette bande dessinée-là pour voir un peu comment ils se sentent. Puis tout ça, après avoir vu, il n'y a pas beaucoup de semaines, le grand reportage d'enquête sur les détransitions, justement. Donc, on est un peu dans cette
Un reportage qui, à mon avis, est assez discutable pour son approche journalistique parce qu'on a pris des cas isolés puis on en a fait des cas d'espèces, là, mais c'est ça, oui.
Ben, c'est ça. Et justement, dans le livre, je vous parlais de son meilleur ami qui est aussi militant, puis il va dire, mais mon Dieu, on va utiliser ton cas unique comme cas d'espèce pour dire que la transition, et ainsi de suite. J'ai trouvé qu'on pouvait le voir de deux façons. Emilia va se questionner par rapport à ce qui lui est arrivé. Et puis là, oui, il y a des gens à qui ça convient tout est bien, mais elle, ben, c'est ça. Soit, ça nous amène dans le spectre. Donc, de dire, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il va avoir sa mastectomie, mais en même temps, il ne se sent pas tout à fait femme. Là, ça va nous amener à parler de stéréotypes de genre, de santé mentale. Il y a une façon positive d'analyser tout ça. Je parlais avec son rapport avec son psychologue au début, qui parlait beaucoup plus, qui le laissait parler lui. Donc, il y a toute cette... et de voir sa réalité à la fin, de voir justement qu'on est dans un spectre où... Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça aide à réfléchir. Mais oui, ça peut être aussi questionnant de voir ce personnage-là dire, ah, ben finalement, je vais détransitionner. Ça peut avoir ça peut te donner des armes à ceux qui se posent des questions. Mais en même temps, oui, ça met de l'avant l'importance d'avoir un suivi qui est bien fait au moment de transitionner.
Oui, puis c'est un problème. Les personnes qui veulent embarquer dans un processus de transition ne sont pas nécessairement bien suivies tout le temps. L'accès aux soins, c'est difficile, même ici au Québec. Bon, c'est un peu ce qu'illustrait au départ le reportage d'enquête, qui a pris une bifurcation par la suite, là. Mais puis je pense que ça, c'est important de le dire, là. Ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire que ça va pas invalider tous les autres parcours. C'est ça le problème de ce genre de
Et
cas-là.
c'est ça. Mais la détransition, ça arrive aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ouvrage en nuance, mais c'est ça, moi, ça m'a dérangé comme lecture. Pas dans le mauvais sens de mon Dieu, quel mauvais livre, mais ça nous fait réfléchir à tout ce que c'est, ce processus de transition-là, tout ce que ça implique, tout ce que ça peut impliquer, tellement de choses. C'est une bande dessinée, ça se lit excessivement rapidement, mais mon Dieu, qu'on continue de réfléchir quand même à Au parcours de Émile, Émilia, dans ce livre-là, oui, il y a eu enquête, on a continué d'y penser, mais là, d'avoir l'intérieur du personnage, c'est quand même très bien rendu, cette espèce de questionnement qui peut survenir par après. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que... Et là, il y a beaucoup de choses dans un tout petit livre, mais moi, je vais vous dire, ça ne m'a pas laissé indifférent, justement. Et je ne sais toujours pas exactement comment le prendre, mais lecture intéressante quand même, et c'est spécial de voir ce thème-là quand même abordé dans une bande dessinée.
Donc,
Voilà.
Emilia, bande dessinée de Pierre Youngling, c'est l'employé du mois.
L'employé.e du mois,
Oui, point E
oui.
du mois. Oui, c'est sûr qu'en ondes, ça paraît pas tant que ça. Cela dit, il nous reste deux petites minutes à peu près pour parler. Je vais inviter la personne qui a fait la coordination de ce livre-là, de nous donner une entrevue, Chassa Enriquez. Sexualité et dissidence queer. Moi, j'ai terminé ma lecture ce week-end. Écoute, c'est un livre que j'ai trouvé très sérieux et fort intéressant.
Oui, ben c'est ça. Invite-le, Chachang Enriquez. Ça risque d'être une conversation super intéressante. Justement, je savais que je n'aurais pas le temps d'en parler beaucoup, mais de vous le résumer tranquillement. Sexualité et dissidence queer, paru chez les éditions du Remue-Ménage. Chachang Enriquez s'est rendu compte, lui, il est dans la sociologie, s'est rendu compte qu'on avait peu d'ouvrages sociologiques qui s'intéressaient aux questions queer au Québec, en français. Il est inspiré par Gail Rubin, qui est une sociologue américaine qui s'est penchée sur ces questions-là. Il a décidé donc de faire ce collectif qui va s'intéresser à beaucoup de questions, des thèmes dans l'air du temps. Un livre qui est né du backlash hétéro-cisnormatif, du courant conservateur. Tu parlais avec ton invité tout à l'heure de ce 20 ans en arrière qu'on nous oblige toujours à revivre.
Oui.
On est un peu dans cette mouvance-là, c'est de réfléchir. Un ouvrage, oui, très sérieux, très dense, mais en même temps, éminemment accessible. On questionne sérieusement les questions bisexualité, plaisir, consentement, BDSM, sexting, polyamour, sexualité, travail du sexe. Tout est là. Ben, tout est là. Ils veulent quand même en faire d'autres livres pour
Oui.
continuer cette réflexion-là. Un ouvrage vraiment excessivement utile, je crois, une pierre d'assise qui va être intéressante pour la sociologie queer au cours des prochaines années. Un livre qu'on doit lire tranquillement et réfléchir. C'est dense, mais c'est documenté, c'est sérieux, c'est bien fait. Beaucoup de points de vue. C'est vraiment une lecture très intéressante pour ceux qui travaillent, qui se posent des questions autour de toute cette mouvance queer LGBT. C'est un livre vraiment à lire. Ça va être très utile pour comprendre tout le
Un
phénomène.
ouvrage de référence. Et moi, je vais faire un commentaire constructif, là. Moi, je pense que c'est un livre qui gagnerait à avoir à la fin, là, tu sais, un lexique de mots puis des références pour retrouver. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je me disais, ah, peut-être qu'un jour, je vais devoir retourner là, puis là, je n'arriverai pas à le retrouver. Vraiment, c'est la seule chose qui lui manque. C'est un ouvrage accessible. C'est ça qui est important de dire. C'est n'importe qui ne fait pas ce genre de travail dans la vie va comprendre ce qui est écrit là-dessus. Pas besoin
Oui, on
d'avoir un
apprend.
diplôme universitaire pour comprendre.
Oui, c'est ça. Puis je parlais du spectre tout à l'heure, mais de voir tout cet éventail de choses qui concernent la sexualité et les modes de vie et tout, là. Donc, un ouvrage vraiment fort intéressant à mettre dans vos bibliothèques pour un livre qui va avoir une longue vie parce
Oui.
qu'on va y retourner souvent.
Et
Voilà.
je pense que Chacha parle de faire un deuxième tome à ce livre, alors à
Au
suivre.
début, le deuxième, peut-être troisième, d'autres déclinaisons. Il y a énormément de choses à dire sur plein de sujets, donc ils vont continuer leur recherche et c'est fort pertinent.
Oui, ben moi, j'avoue là que j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup, Brian Saint-Louis.
Oui, on se revoit dans un mois.
Dans un mois.